Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Mauger.
Dans ce troisième entretien avec le professeur Giovanni Dottoli, vice-président de l'Université de Paris, et avant que nous parlions de ce merveilleux auteur qui s'appelle Montaigne, et avant que nous parlions du livre que vient de publier Giovanni Dottoli, qui s'intitule « La voix de Montaigne, langue, corps et parole dans les essais » chez l'éditeur parisien Lanor dans la collection Littérature, donc un livre absolument étonnant, qui fourmille d'une richesse intellectuelle que je conseille vraiment. Pour moi, c'est le livre de l'année, je peux le dire carrément. Avant d'évoquer avec lui La voix de Montaigne, rappelons que Giovanni Dottoli, auteur d'une centaine de livres, je ne peux pas me permettre de les rappeler tous ici, mais vient de sortir un livre tout à fait impressionnant aussi, dans la Biblioteca della Ricerca, Linguistica, le numéro 25, et je cite Giovanni Dottoli, Dictionnaire et littérature, défense et illustration de la langue française du XVIe au XXIe siècle, avec un avant-propos d'Alain Rey, ce n'est pas rien, chez l'éditeur Chena Editore. Et je dois dire que ce dictionnaire, je cite le dos du livre, « Le dictionnaire est un parcours d'illumination, son inépuisable trésor de mots nous fait accéder à la source de la langue. Lisez ce livre qui s'appelle « Dictionnaire et littérature », Défense, illustration de la langue française du XVIe au XXIe siècle, c'est un livre où on y trouve des pépites. Maintenant que j'ai cité ce dictionnaire et littérature aux éditions Chena, j'ai devant moi un des livres qui m'apparaît comme un livre d'une importance, j'allais dire capitale, je dis considérable et capitale. Il y a ce livre qui s'appelle « La voix de Montaigne, langue, corps et parole dans les essais ». Alors, c'est un livre qui est impressionnant parce que c'est un livre qui traverse une vie, c'est un livre de chevet. Et si je regarde le dos du livre, après en avoir lu bon nombre de pages, ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à étudier et à apprendre. Michel de Montaigne connaît la valeur de son écriture qui traduit la voix en mouvement et le passage de l'être humain d'instant en instant. Qu'en pensez-vous, cher Giovanni, de ce Montaigne qui est impressionnant par bien des d'éléments, et notamment cette voix de Montaigne que tu évoques si bien dans ce livre. Alors
bon, premièrement, encore une fois, merci de ce troisième entretien de confiance. C'était un acte d'amour pour moi, pour la langue et la culture française. J'ai beaucoup réfléchi autour du titre de ce livre.
Ça se voit.
Pourquoi la voix ? Pourquoi la langue? Pourquoi le corps? Pourquoi la parole? Et alors, je suis parti de plusieurs éléments, mais les éléments essentiels sont les suivants. Premier élément, nous sommes à une époque où l'anatomie, le corps humain, en tant qu'architecture de pièces qui sont montées l'une avec l'autre en créant la grande horloge qui est le corps humain, qui marche parfaitement, et chaque pièce joue son rôle. Alors, c'est l'époque de Montaigne où l'anatomie compte beaucoup. Dans l'art est plein de cet intérêt à l'égard du fonctionnement du corps humain.
Est-ce que Montaigne ne décrypte pas ce corps humain comme le cinéma muet l'a fait avant le cinéma parlant?
Ah ben absolument, absolument. Là, il est vraiment en avant de plusieurs siècles sur son époque. Je voudrais rappeler que Michel-Ange, Léonard de Vinci, qui viennent avant Montaigne bien sûr, mais tout le monde de l'art du XVIe siècle fait beaucoup attention à l'anatomie. Toute la peinture de l'époque est pleine de cette attention. Alors Montaigne, qui est quelqu'un qui réfléchit vraiment sur la vie en tant que telle, la vie comme passage du temps, instant après instant, point après point.
C'est impressionnant. C'est impressionnant.
Et ça, c'est une vision baroque du monde.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et alors, il se rend compte que, premièrement, la vie est une lutte contre la mort. Il ne faut pas mourir. On ne veut pas mourir. Et comment lutter contre la mort? Le cinéma le découvrira, comme vous venez de le dire, en recréant la vie.
Impossible.
Sous l'écran. Mais Montaigne n'avait pas de cinéma. Alors son cinéma, c'est le livre. Il faut que le livre bouge, comme nos jambes. Il ne soit jamais fermé, bloqué sur une écriture morte. L'écriture est de la matière vivante, comme la matière du sculpteur, comme les couleurs du peintre, et c'est aux mains, à la plume, aux doigts, à la tête, au corps de l'écrivain, de la manipuler, de la faire sienne, de la faire vivre.
C'est ce que comprendra plus tard, ou ce que comprendront plus tard, Derrida et Barthes.
Bien sûr, et Starobinsky.
Si je t'ai bien lu.
Absolument, tu as tout à fait raison. Barthes, Derrida insistent beaucoup, et Michel Foucault, sur le corps, dans tous ses problèmes, et sur sa voix. En revenant à Montaigne, alors si le livre est la traduction de la vie, de sa propre vie, dans les vies en entier du monde, les autres, les êtres humains, il faut que ce livre parle la voix du corps qui le produit.
Et chemine.
Et cette voix du corps n'est pas seulement la belle voix d'une belle fille ou d'une actrice ou d'une cantatrice, non. C'est la voix dans sa totalité. Parce que notre corps, il produit de belles voix, mais même des voix moins belles. Des bruits, des sons,
des
rumeurs, n'importe quel type de bruit. Et cela comporte que le livre n'est pas fermé, il faut que l'écrivain suive sa parole d'instant en instant. Mmh. D'où le livre célèbre de Starobinsky, Montaigne en mouvement.
Ah, oui.
Tout à fait. Mais en même temps, il y a un autre problème que je reproduis sur la couverture du livre. Il y a...
Donc je rappelle, page... Giovanni d'Ottoli, pardon, La voix de Montaigne, langue, corps et parole dans les essais, aux éditions Lanor Littérature.
Ah ben merci encore une fois. Et alors là, il y a ce sous-fond à peine percevable sous le portrait de Montaigne et le titre et le nom de l'auteur et de l'éditeur qui reproduit une page du célèbre exemplaire de Bordeaux. C'est quoi l'exemplaire de Bordeaux? C'est des épreuves, des essais de 5-6 ans avant la mort de Montaigne. Il reçoit les épreuves de son livre. Ce sont de grandes pages, une folio presque. Et à partir de ces épreuves, il note à la main, bien sûr, toutes ses pensées, ses corrections, ce qu'il appelle les allongeats. Il allonge le texte, oui. Il insère d'autres citations. Oui. Alors, ce qui comporte que, c'est la voix qui s'ajoute aux voix précédentes. Parce que notre voix est magnifique. Elle naît, je dis quelque part, morte.
Ce qui est très impressionnant, c'est que Montaigne est d'une modernité, je dirais, absolue. Et alors, pour avoir lu et relu plusieurs passages de ton livre, j'ai beaucoup aimé cette formule qui annonce la conclusion, une des deux formules, celle de Marc Fumaroli. Les essais ont donc pour nous, Français, le caractère fondateur que la Divine Comédie avait eu pour l'Italie.
Et c'est vrai parce que Montaigne parle trois langues et écrit trois langues. Il écrit son patois, le périgourdin ou sa langue, il écrit le latin. Il faut rappeler que toute sa formation a été faite en latin. Le latin était sa langue,
sa langue
de tous les jours.
Tout à fait. Tout
donc
à fait.
Son maître, son père, sa mère lui parlaient en latin. Et ça, c'est très important.
Ah, ses parents lui parlaient en latin.
Oui, en latin. Et la troisième langue, c'est le français, qui est le français de l'époque en formation.
Oui.
On n'a pas encore le classicisme.
Oui, on le voit.
On n'a pas encore Malherbe. Donc, on n'a pas encore de réforme de la langue. C'est une langue en mouvement, justement, comme sa voix et comme son livre. Et alors, il réussit à remoduler ses langues, parce que le Périgourdin, c'est plusieurs langues en même temps, plusieurs patois. À l'époque, chaque village avait des différences à l'égard de l'autre.
Des variantes.
Des variantes importantes. C'était des langues presque différentes. Et puis, le latin. De fait, le livre, les essais, est plein de latin, partout.
Est-ce que la formule que tu écris dans cette conclusion en disant cette phrase, c'est Giovanni d'Ottoli qui parle, « Montaigne sait parfaitement que son livre est unique, c'est le seul livre au monde de son espèce », dit-il avec orgueil. Est-ce que c'est vrai ?
Ah, je pense que c'est vrai. Parce qu'il a compris une chose fondamentale. Pour ne pas mourir, il fallait recréer la vie dans le livre. Mais le livre est quand même mort. Et comment le refaire ? Comment le refaire tout le temps, tous les jours ? Il faut que vraiment cette voix plurielle du corps soit évidente. Que le lecteur devienne, après l'auteur qui mourra un jour, devienne auteur lui-même. Il pourra, s'il le voudra, ajouter, allonger, redécouvrir, développer, interpréter, traduire.
Ce qui est très impressionnant, c'est toujours, et ça tu le soulignes très très bien, le destinataire.
Absolument.
Le destinataire.
Et là, c'est un autre aspect moderne de Montaigne. Tout le monde pense à Montaigne comme un auteur fermé dans sa tour d'ivoire. Là, dans son château, il écrit des sentences, des maximes en latin, en grec, en italien, sur les poutres autour de lui, sur la pierre. Donc, on le présente comme un auteur prisonnier de son écriture et mort. Mort dans son écriture. C'est exactement le contraire.
C'est le contraire, tout à fait.
La tour n'était que le point d'envol d'où il devait partir. C'était l'école de liberté dont parle Bonnefoy.
C'est le lieu où la fusée va s'envoler.
Absolument.
C'est ça. Et puis, alors, je lis encore à la page 294 des formules. Moi, j'ai l'impression que c'est un de tes livres les plus achevés, pour être très franc.
Hein. Je te remercie.
Je crois. Le Salastétier avait déjà des dimensions considérables. Ce livre, sans vouloir comparer l'un avec l'autre, mais il y a des formules qui sont éblouissantes de pensée, de profondeur, d'analyse, d'érudition, il faut bien le dire. En homme de conscience, Montaigne nous fait suivre sa vie. Je lis à la page 294. Donc, en homme de conscience, Montaigne nous fait suivre sa vie. Ma vie que je vis peu à peu, non sans quelque douceur. Et l'élément douceur n'est pas négligeable.
Et ça vient d'Horace. Carpe diem. Montaigne était un lecteur de littérature latine, formidable. Et là, il y a cet monde qui s'ouvre.
C'est formidable.
Et ce n'est pas seulement un auteur méditerranéen, mais c'est encore plus profond. C'est le fait qu'il avait compris l'extrême urgence de l'union entre le Sud et le Nord.
Et le Nord.
Le continent et la Méditerranée.
Et rappelons aux auditeurs que Horace est né combien de temps avant Montaigne ?
Ah ben, 15 siècles avant Montaigne.
Tu dis 16 même dans ton livre.
Il est né à côté, entre l'Épouille et la Lucanie.
Ah.
Donc, dans les montagnes, la ville s'appelle Venusia, ça s'appelait, et de jour en jour, ça s'appelle Venosa.
Et puis alors, ces formules que je lis et j'ai relu encore ce matin avec un plaisir immense, au fur et à mesure, à la page 296, au fur et à mesure, Montaigne voit la mort approcher, il gonfle son livre de voix pour défier la fin. Le livre devient un grand corps vivant, ce que tu disais tout à l'heure, qui continuera la vie de l'auteur après son dernier voyage. La substance de son moi à travers sa voix. Mais c'est quand même impressionnant, cette lecture de Montaigne que tu nous présentes là. C'est tout à fait impressionnant.
Ouais, j'ai essayé de suivre pas à pas les essais, ligne après ligne, à la recherche de ces formules, parce qu'il y a des formules magiques de Montaigne, de ces formules concernant les principes de son écriture, qui sont là, marquées, incises. Il suffit de lire. Et là, ça ouvre un autre problème. Nous avons l'habitude de lire la littérature comme un roman. C'est-à-dire que pas vraiment en profondeur. Il faut partir des textes.
Oui.
La matière de l'écrivain, c'est la parole. Et donc, il faut suivre les mots de l'écrivain, mot après mot.
Avant que de se quitter...
Avant de se lancer dans des formules de n'importe quoi. Et probablement, on peut se tromper, bien sûr, parce qu'il y a des auteurs très énigmatiques.
Donc, on ne se quitte pas, je parle de notre entretien, on se lance.
J'aimerais dire une chose en conclusion. Il y a quelques jours, le Corriere della Sera, c'est le plus grand quotidien italien, il consacrait une page entière à Todorov. Tout le monde sait qui est Todorov.
Stéphane Todorov.
Voilà, le grand structuraliste qui a beaucoup travaillé en France, il vient de Roumanie, qui a fait passer l'idée que la littérature est surtout de la théorie de la littérature, des formules, des structures que nous, les lecteurs qui ont de l'imagination, qui ont des visions, qui ont du plaisir en lisant, on était des rêveurs des passés, des savants qui n'appartiennent plus au monde que nous vivons. Eh bien, le journal l'a interviewé et il dit cette phrase étonnante. Je me suis trompé. Plus de structure, plus du structuralisme. Il faut revenir à la vie et à la société. Alors, je me suis dit, mais Sainte-Beuve, il y a 160 ans, disait, pour lire un écrivain, il faut le lire en suivant l'axe, l'homme et l'œuvre.
Merci, cher Giovanni. Mais alors, de Montaigne à Yves Bonnefoy, quels sont les trois autres écrivains français que l'on peut mettre entre Montaigne et Bonnefoy, juste pour nos auditeurs?
Moi, je pense à Racine.
Oui.
Que l'on considère comme un auteur classique mumifié.
Et éblouissant.
Absolument
éblouissant,
pas. Racine. C'est un des plus grands poètes de France.
Ah oui, tout à fait.
Victor Hugo, là aussi,
sûr.
On pense qu'il est trop gonflé. Ce n'est pas vrai.
Et il en reste
lire.
Un. Et il en reste un.
Apollinaire.
Alors, chers auditeurs, avec Giovanni Dottoli, Montaigne, nous avons dit Racine, nous avons dit Victor Hugo, nous avons dit Apollinaire, nous avons dit Yves Bonnefoy, et je dois dire, dans la page 298 de ce livre fabuleux, qu'il faut déjà acheter pour Noël au mois de février, ça c'est un conseil d'amis, le destinataire, nous, sera un partenaire, dit Montaigne, via Giovanni Dottoli. Alors, ce très très beau livre, je dois dire qu'il devient pour moi un livre de chevet. Giovanni Dottoli, La voix de Montaigne, langue, corps et parole dans les essais, la non-littérature. Je crois, Giovanni, je ne parle pas de ton œuvre poétique, je crois, Giovanni, que c'est ton livre le plus achevé. Et nous te remercions. Et chers auditeurs, vous pouvez télécharger cette série d'émissions avec ce savant et cet érudit qui s'appelle Giovanni Dottoli, qui a la modestie d'un lecteur de Montaigne, d'un merveilleux lecteur de Montaigne. Vous pouvez télécharger ces émissions tout à fait gracieusement. Merci, au revoir et à bientôt.